Avec ma nouvelle émission Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène au pays du conte, des conteurs et de l'oralité. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Une émission écoutable, réécoutable, podcastable sur radiooloron.fr. Il était une fois le conte est une émission qui peut aussi s'écouter, se podcaster, se télécharger sur le site ilétaitunefoislecomte.wordpress.com. Il était une fois le conte, une émission diffusée tous les mardis soirs à partir de 21h sur Radio Oloron. Il était une fois le conte parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées. Je les conte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer, car du fond de mon cœur, c'est vous qui parlez. Je suis poète à mes heures, mais surtout, c'est de vous écouter parler de tout. Mais tout au long de mes rêves, et chaque fois que je m'arrête à penser, on me parle à l'oreille du courage, de tout ce qu'il faudrait changer. Mais de l'autre, j'entends qu'on préfère rester dans son coin. C'est le jour, c'est le temps, c'est dans l'air que c'est qu'on va chanter si on s'y laisse aller. C'est comme l'histoire des nuages, puis du vent qui arrêtait pas de souffler. On m'a dit qu'à l'orage, y'a rien que le vent qui pouvait tout faire passer. Mais du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. À Saint-Élie de Caxton, y a bien des paroles qui s'envolent. Mais y a encore beaucoup de grand-mères qui restent.
Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire, parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Oloron, podcastable et réécoutable sur radiooloron.fr ou sur le site de l'émission Il était une fois le conte.wordpress.com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Écoutez Il était une fois le conte.
Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Oloron pour cette 51e émission de Il était une fois le conte. 51e émission, c'est la 13e des contes en vrac. Aujourd'hui, je vous avais dit la semaine dernière que cette saison-là, les contes en vrac, qu'on allait considérer ça comme une émission normale, hors émission spéciale ou hors interview, voilà. Parce qu'on a quand même bien débroussaillé le conte sur les deux premières saisons. Donc, dans celle-ci, on s'en tourne du coup du conte en vrac. Et donc, pour cette 51e émission, on se démarre avec La Fontaine de Margat par Jean-Yves Boutin, extrait de l'album Conte du Menhir. Et oui, un conte bretonisant, encore une fois n'est pas coutume, que l'on se fait suivre par la musique, par les Dames de Gauche, par notre ami
Sarclo-ré, le diminutif c'est Sarclo, ça va plus vite, extrait de l'album Des tendresses et des cochons se tait. On se retrouve
après. Bonne écoute les gens.
Il y a très longtemps, dans le village de Margat, se trouvait une fontaine. Ronan, le seigneur de ce village, aimait se promener à cheval dans les environs. Un jour, il entendit une voix qui venait d'un buisson.
« Non, tenant un artisan !»«
Mais c'est un lutin ! Que t'arrive-t-il, mon ami ? Mais pourquoi gigotes-tu comme ça dans tous les sens ?»
Au lieu de vous moquer de moi, Seigneur Ronan, vous feriez mieux de me sortir de ce buisson. Ne voyez-vous pas que ma barbe et mes vêtements sont accrochés aux ronces? Oh! Et je suis en train d'abîmer mon gilet et ma belle culotte de velours. Oh!
Mais je vais t'aider, mon ami. Calme-toi. Non, mais reste tranquille. Voilà, c'est fait. Mais pourquoi t'es-tu égaré dans ce buisson?
Je cherche la pierre blanche que j'ai perdue.
Ah! Qu'est-ce que c'est que cette pierre blanche?
Quoi? Vous ne connaissez pas la pierre blanche? Mais c'est la seule pierre qui peut empêcher la fontaine de Margat de déborder.
Je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Et d'ailleurs, franchement, je n'y crois pas.
Oh! Là, vous avez tort, Seigneur Ronan. Vous avez tort. Oh, c'était un petit bonhomme, yop, 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 Maria Tarapsa. Oh, c'était un petit bonhomme qui s'en allait au bûcher.
Et le lutin s'en alla. La nuit commençait à tomber. Ronan se dépêcha de rentrer lorsque soudain, une vieille femme apparut.
Vous avez failli me faire tomber de mon cheval, brave femme.
Je suis Catel la vieille et je fais ce que je veux.
Je suis le seigneur Ronan et je veux passer.
Non. Seigneur Ronan, tu ne passeras pas.
Laissez-moi passer avant que je me fâche.
Quoi? Que tu te fâches? Je vais te donner une raison de te fâcher. Demain, la fontaine de Margat débordera et inondera tout le village. Crois-moi.
Ah, méchante vieille Catel, écarte-toi de mon chemin. Allez, va. Et la vieille Catel disparut. Ronan rentra à son château et s'endormit tranquillement. Le soleil se levait à peine qu'on entendit
« Seigneur Ronan, réveillez-vous vite! La fontaine de Margat déborde! L'eau n'arrête pas de couler!
Les maisons vont être inondées !»
Lorsque Ronan arriva au village, il entendit
« Tu vois bien que l'eau monte, faut faire une digue! Mais non, c'est un canal qu'il faut creuser !»
Ne traîne pas! Grimpe dans la charrette! Allez, on s'en va!
Personne ne savait vraiment comment arrêter l'eau, pas même le seigneur Ronan. Soudain,
au secours! Je ne sais pas nager et je vais me noyer!
Ronan reconnut la voix du lutin et il se mit à le chercher. Il l'aperçut, l'attrapa par le bras et le sauva de la noyade en le mettant sur son épaule.
Oh, seigneur Ronan, vous m'avez sauvé la vie. Que puis-je faire pour vous remercier?
« Donne-moi la pierre blanche dont tu m'as parlé hier. »«
Ah ! Mais je croyais que... »«
J'ai eu tort, lutin. Maintenant, donne-la-moi, s'il te plaît.
Ah. »«
S'il te plaît. »«
La voici. »
Et le lutin sortit la pierre blanche de la poche de son gilet. Aussitôt, Ronan jeta la pierre blanche dans la fontaine qui s'arrêta immédiatement de déborder. On dit que Ronan nomma le lutin grand conseiller, et on dit aussi que si on écoute attentivement, on peut les entendre bavarder tous les deux au bord de la fontaine.
« puisque la bouche est gâchée, il suffit pour vos assiettes d'une usine de viande hachée aux trois coins de la planète. La paroisse est cathodique et la goutte de sang choque les petites catholiques, les amis des bébés phoques. C'est le regard des cloportes de ceux qui n'auront pas joui, le renfermé qui l'emporte, le non plus fort que le oui. Les jeunes cadres ont les chocottes, ils travaillent tard dans la nuit. Les dames de gauche tricotent pour les bébés sahraouis. L'argent, c'est pas difficile, il suffit d'y penser tout le temps. Ça transforme en crocodile, mais ça tue quelques enfants. Pour ceux qui sont sans papier, on a trouvé des cartons. Pleurer n'est pas un métier et le vin ne rend pas mignon. Les jeunes cadres ont les chocottes, ils travaillent tard dans la nuit. Et les dames de gauche tricotent pour les bébés sahraouis. Le boss n'a aucune envie d'en finir avec l'angoisse, d'offrir un sens à la vie, de faire partager la poisse. Le gars connaît son boulot et sans un remerciement surfe sur les plans sociaux les vagues de licenciement. Les jeunes cadres ont les chocottes, ils travaillent tard dans la nuit. Et les dames de gauche tricotent pour les bébés sahraouis. C'est le regard des cloportes de ceux qui n'auront pas joui, le renfermé qui l'emporte, le non plus fort que le oui.
Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire. Parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte, une émission réécoutable sur Radio Oloron, podcastable et réécoutable sur radiooloron.fr ou sur le site de l'émission Il était une fois le conte.wordpress.com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Écoutez, Il était une fois le conte.
Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées.
Et oui, les gens, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Oloron pour la 51e émission édition de Il était une fois le conte avec Ashkatou comme serviteur. Donc, c'était pas mal. Hein. Donc, je vous propose, pareil que la semaine dernière, celui-là, je l'ai découvert un peu cet été, en tout cas cet album. Je me suis procuré cet été, je savais qu'il existait, en fait, pour être exact. C'est toujours édité par Planète Rebelle. Le livre, et c'est un livre audio, du coup. Le conteur, c'est Luc Desnoyers. Le livre audio, c'est Raconte-moi que tu as vu l'Irlande. Et on se voilà. Et le morceau s'appelle Prologue. C'est le prologue de l'histoire et c'est bien sympa. On se fait suivre ça ensuite avec de la musique, du coup. Avec Le navire éphémère par l'excellent Serge Gérouillot, extrait de l'album. Le dernier en date, me semble-t-il, l'album L'Espoir Têtu. On se retrouve après. Bonne écoute.
Dans le temps que je vous compte, c'est pas votre temps et c'est pas mon temps, mais c'était le temps de quelqu'un. Dans ce temps-là, il y avait, en Irlande, un maçon. Son nom, c'était le Goban Serre. C'était le meilleur maçon qui a jamais habité sur cette terre. il était effrayant. Un bonhomme qui pourrait tailler une pierre comme il pourrait tailler une compte. C'est lui qui a fait toutes les tours rondes en Irlande, le temps que les Vikings étaient en train de venir terroriser les faisans ou les paysans ou je sais pas quoi, là. Puis, après ça, ben, il a décidé d'entreprendre des châteaux. Puis, chaque château qu'il faisait était mieux que celui qu'il avait fait avant. Et il était reconnu à travers l'Europe. Et le roi de l'Angleterre, ben, il entend parler de ça. Puis, il a décidé que ça serait une maudite bonne affaire s'il pourrait faire venir le Gobancer en Angleterre pour qu'il se fasse pour lui le plus beau château du monde. Ce qu'il avait en tête, par contre, c'est que aussitôt que le château était terminé, il était pour terminer le Gobancer avec, de façon que personne d'autre pourrait avoir un château aussi beau que celui-là. Fait qu'il envoie la parole en Irlande, et le Goban, ben, il reçoit ça, puis il regarde ça, il dit, c'est une affaire, ça me tente. Fait qu'il dit ça à sa bonne femme, il dit, « Mon partir pour l'Angleterre avec le jeune, là, il peut mixer le mortier pour moi, puis il peut charrier le sable, puis tout ça. » Elle dit pas grand-chose, elle. Lendemain matin, il se lève, ils s'en vont au puits pour se laver, ils montent à la maison, ils mangent du gruau pour leur déjeuner. Une espèce de croissant irlandais, tu sais. Elle a fait un petit bannock de pain, elle met la signe de la croix là-dessus, puis elle met sa bénédiction là-dedans, puis les deux, ils prennent la route. Ben, ils sont pas partis bien loin, sont arrivés au Fish Market Cross. Quand le gobarn, il tourne, et il dit au fils, il dit, « Tu peux-tu me raccourcir le chemin? » Le jeune, il regarde le père, il dit, « Raccourcir le chemin? » Comment est-ce que tu voudras bien que je fasse ça? Peu importe quelle façon que je la prenne, elle va être toujours la même maudite distance. Ben, si c'est de même, aussi bien de retourner, a dit le père. Puis sont tournés à la maison. La mère n'a rien dit. Continue à papoter. Lendemain matin, ils se lèvent, ils s'en vont au puits, mangent leur croissant irlandais. Elle est boulange un pain. Elle met la signe de la croix là-dessus, puis sa bénédiction là-dedans, puis ah ouais, donc les deux. Puis ils ne sont pas partis bien loin quand ils arrivent au Fish Market Cross. Puis le père, il tourne et il dit, « Puis, vas-tu me le raccourcir, le chemin? » Comment bien que tu voudras que je raccourcisse le chemin? Ça va être la même maudite distance, peu importe qu'est-ce que je fasse. Bon, ben, si c'est de même, aussi bien de retourner tout de suite. Fait qu'ils sont retournés. La mère, elle dit rien, mais cette soirée-là, quand le père y est monté au lit, ben, elle tourne puis elle dit au jeune, elle dit, « Qu'est-ce qui prend ton père pour revenir comme ça à tous les jours? Vous n'allez jamais arriver en Angleterre si vous continuez comme ça? » Ben, maudit, il dit, « Il me demande une affaire, puis je comprends pas qu'est-ce qu'il veut. Il me demande de raccourcir le chemin. » Oh, ben, Simonac, elle dit, « Ça se peut-tu? » Elle dit, c'est assez simple. Et toi avec, qu'elle dit? C'est ce qu'il faut que tu fasses, c'est que quand tu arrives puis qu'il te le demande, ben, tu lui contes une histoire. Et quand t'as terminé celui-là, ben, tu pourrais lui en donner une autre. Et une autre après. Ben, vous allez jamais, même jamais sentir le chemin jusqu'à ce que vous allez être rendu là-bas. Oh, ben, on va essayer. Lendemain matin, ils se lèvent, ils s'en vont au puits pour se laver, ils mangent leur gruau, elle, elle est boulange un pain, elle met la signe de la croix là-dessus, puis sa bénédiction là-dedans, puis ah ouais, dans fort les deux, puis quand ils sont rendus au Fish Market Cross, le père, il dit, puis, tu vas-tu me le raccourcir, le chemin? Ben oui, pourquoi pas? Et puis, il a commencé avec ce qui suit.
Fragile planète. petits flocons bleus. Navire éphémère coulant dans le temps, fragile planète, roule encore un peu. Lèche tes blessures, garde-nous longtemps. Le vent de la vie porte des odeurs, des chants disparus dans le cœur des loups. Et c'est doucement que viennent les peurs et les regards blêmes vers un soleil roux. Le cœur de la terre gémit sous nos pas, le ciel est brûlant et réchauffe l'air. Le désert avance et tire ses bras, le nord et le sud fondent dans la mer. Fragile planète, petit flocon bleu, navire éphémère coulant dans le temps, fragile planète, roule encore un peu. Lèche tes blessures, garde-nous longtemps. Des fûts de pétrole rouillent sous la pluie, des enfants s'étonnent dans le gris matin. Le sang qui s'évade ressemble à la nuit, une nappe large qui pleure sans fin. Les festins des âmes mordent les vivants, des animaux tristes dévorent leur corps. Faudra-t-il cesser de faire des enfants? La danse lugubre hante le décor. Fragile planète, petit flocon bleu, navire éphémère coulant dans le temps. Fragile planète, roule encore un peu. Lèche tes blessures, garde-nous longtemps. La nature est belle encore et encore, elle est notre mère et notre avenir. Combien de printemps retiendront la mort? Les derniers silences tardent à venir. Des yeux nous sourient malgré la fureur, des mains sont tendues derrière les fous. Le jour donne encore de belles lueurs, le chant des humains murmure très doux. Fragile planète, petit flocon bleu, fragile planète, roule encore un peu.
Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité, tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire. Parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Oloron, podcastable et réécoutable sur radiooloron.fr ou sur le site de l'émission Il était une fois le conte.wordpress.com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Écoutez, Il était une fois le conte.
Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées.
C'était pas mal, hein. 51e édition donc de la livraison d'Ashkatou, la 13e consacrée au conte en vrac. Là du coup, je vous propose deux extraits d'un spectacle de Catherine Zarkat. Je vous avais passé un extrait, je ne sais plus dans quelle émission. Et là, du coup, on se fait deux extraits, vous êtes gâtés. Donc, c'est un spectacle, c'est tout un travail qu'elle a fait, on va dire, autour des gens du voyage, quoi, vous voyez. Et donc, le spectacle, là, s'appelle Les Fils du Vent. Et oui. Et les extraits que l'on se fait et qui se suivent dans le spectacle, c'est La Roue des Visages que l'on se fait suivre par La Platitude de la Terre. Je pense que vous allez être un peu frustré et rester un peu sur votre faim. Mais écoutez, procurez-vous les albums, allez voir les artistes, dépatouillez-vous, traînez les médiathèques pour les livres audio, traînez Internet pour des extraits vidéo éventuellement, tout ça. Et donc, on se fait suivre ça par, par l'orchestre poétique d'avant-garde, ou d'avant-guerre, je ne sais plus comment on dit. C'est OPA, les copains de OPA, et la copine surtout Myriam. Salutations à Myriam. Ce serait d'un enregistrement public, de l'album public Concert pour public invisible. Et le morceau, c'est le morceau Il y a quelque chose qui cloche. Voilà, et on se retrouve après pour la dernière ligne droite. Donc, on y va, c'est parti. Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous emmène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire. Parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte, une émission réécoutable sur Radio Oloron, podcastable et réécoutable sur radioloron.fr ou sur le site de l'émission il était une fois le conte.wordpress.com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Écoutez, Il était une fois le conte.
Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées.
Alors, un jour, j'étais invitée à un endroit, c'était à 100 km de Paris à peu près, un très très beau château grandiose, froid peu, mais enfin beau. Et j'arrive et je me promène partout. Puis à un moment donné, je suis entrée dans une pièce et bon, je me suis rendu compte que j'étais dans la chambre de la maîtresse de maison. Oh, et je me suis dit, c'est pas grave, après tout le lit est fait, je veux dire, c'est propre. Bon. Et j'ai regardé. Et j'ai voulu regarder un peu partout et je n'ai rien regardé d'autre que ce que j'ai vu là, droit, sur la cheminée. Il y avait là, sur la cheminée, un objet d'une telle puissance que je n'ai vu que lui. C'était une roue en terre. Petite, hein, comme ça, très très fine. Elle était dans la terre, mais on l'aurait dit quelque chose qui pouvait être moulé dans l'argent, tellement c'était d'une finesse de travail. On l'aurait dit ciselé dans le jade. Et alors ça représentait une roue, une vieille roue de chariot. Mais au centre, à la place de l'essieu, il y avait un visage humain, mais qui était tellement transcendé, tellement pur, comme le visage des anges sur les peintures de la Renaissance. Et puis il y avait les rayons, puis la roue elle-même. Et derrière l'autre côté, il y avait d'autres petits visages. Mais alors c'était, et c'est ça qui était puissant, c'était le visage du centre transformé, masqué. Quand il s'en va, par exemple, là, comme à midi de la roue de chariot, ça s'en allait, mais discrètement, de manière extrêmement subtile, ça s'en allait vers le loup. Alors, ça donnait un peu, si vous connaissez, ces esquisses qui représentent toutes les étapes de la métamorphose de l'homme en garou. Et au milieu, on est encore un peu humain, mais déjà, le loup est apparent quelque part comme un rien. Et c'était ça qui était sculpté là. Et puis à côté, c'était ce même visage quand il se masque et s'en va, vers un autre visage animal, c'était à peine cernable, hein. Mais enfin, sans doute, c'était quelque chose du porc. Et puis, là, il y en avait encore un autre. Et ça partait, ça filait.
Oh, c'était un petit écureuil.
Et puis là, il y avait des bêtes. Je ne saurais pas vous dire toutes les bêtes qu'il y avait. Il m'aurait fallu un bestiaire pour reconnaître vraiment. Je suis sûre qu'il y avait un poisson, parce qu'il y avait quelque chose de la carpe là, dans un qui était là. Il y avait quelque chose de la carpe dans la bouche, vous voyez. Mais il y avait d'autres sortes d'animaux et ça faisait des visages un peu transformés, pourtant encore très, très humains. C'était un objet tellement frappant que je suis restée à le regarder, je suis restée à le contempler jusqu'à ce que je me rende compte que je tremble de tout mon corps. Et je me suis dit, c'est un objet magique. Et j'ai été tellement fascinée que j'ai couru. Je suis allée chercher la maîtresse de maison, je l'ai attrapée et je lui ai dit, viens voir. Et je lui ai montré ça, je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais où tu as trouvé ça? C'est un objet magique, je suis sûre que c'est un objet magique. Où tu as trouvé ça? Elle m'a dit, tu l'as bien regardé? J'ai dit, ben oui, je crois. Elle me dit, observe mieux. Et j'ai mieux observé. Ah! C'était elle. J'ai reconnu sa tête d'écureuil. Et le visage du centre, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas cette femme assez pour... J'ai compris que c'était comme le visage de son âme. Et celui-là, je ne le connaissais pas. Et j'ai reconnu sa tête d'écureuil et j'ai deviné qu'elle devait avoir à certains moments de sa vie tous les autres visages. Je lui ai dit, mais qui t'a fait ça? C'est un objet magique. Et elle m'a dit, écoute, j'ai pas tellement envie de te raconter, d'expliquer quoi que ce soit, mais j'ai bien envie de te faire rencontrer la personne qui m'a fait ça. Alors, je lui ai dit, ben, je veux bien. Elle m'a dit, écoute, on va voir, hein, je vais téléphoner, on va voir. Vous voyez, des fois, les choses sont simples. Elle a téléphoné, la personne était là. Elle pouvait venir le lendemain. Et le lendemain soir, j'avais commencé de raconter mes contes quand soudainement quelqu'un arrive en retard. Et elle a essayé de passer inaperçue, de se mettre dans un coin discrètement. Mais cette femme-là qui venait d'entrer ne pouvait pas passer inaperçue parce qu'elle crevait l'écran. Elle était d'une telle présence, d'une telle sérénité, je me suis dit, c'est elle qui a fait la roue des visages. Et j'ai raconté mes contes. Et étrangement, je les ai racontés mieux, parce qu'elle était là. Et quand j'ai eu terminé, je suis allée direct la voir, et je lui ai dit, c'est toi qui as fait la roue des visages. Elle m'a dit oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet magique. Est-ce que tu sais que c'est un objet magique? Comment tu as fait ça?
Elle m'a dit oui, je sais que c'est un objet magique.
J'ai dit mais comment tu as fait ça? Comment? Elle m'a dit mais écoute, si je devais t'expliquer comment j'ai fait ça, mais il me faudrait raconter tout un pan de ma vie. Et je lui ai dit ben, je veux bien. Et elle m'a regardée et étrangement elle m'a dit oh, d'accord. Et voici ce qu'elle m'a raconté. C'était il y a quelques années de ça. Elle était assez déprimée. Elle avait besoin de passer son mois d'août toute seule. Et elle est partie, on lui avait indiqué une copine qui lui prêtait une maison dans le Périgord. Et quand elle est arrivée, elle a vu que c'était une maison en construction qui n'était pas terminée, il manquait des fenêtres, et elle était directe sur le béton. Mais elle était tellement déprimée qu'elle ne s'est pas rendue compte que c'était sinistre. Alors on lui a sorti un vieux frigidaire, on l'a installé une table bancale, on lui a tiré de derrière un grenier du Périgord, et Dieu sait s'ils sont nombreux, un vieux matelas fait de laine, de paillasse, une espèce de... Bon, je ne le décris pas. Et puis, on lui a tiré un fil d'électricité et puis on lui a mis une baladeuse au bout. Et elle a vécu là-dedans. Et comme elle savait qu'elle s'ennuierait, elle avait amené avec elle de la terre. Parce qu'elle aimait bien toucher la terre. Elle était tout à fait débutante, mais enfin, elle aimait bien toucher la terre. Alors, elle ne savait pas faire de poterie. Il faut une certaine technique. Elle faisait des petites choses. Et puis, comme elle ne peut pas faire des objets, ou je suis idiot, ça, elle préférait faire des visages. Et on lui avait dit, tu sais, hein, en sculpture, pour faire un visage qui soit comme le modèle, il faut des années de travail. Sinon, tu n'arrives à faire que ton propre visage. Il faut beaucoup d'années pour se dépasser en sculpture. Elle s'était dit, bon, bah, puisque de toute façon, je vais faire mon propre visage, autant y aller carrément. Et elle s'était amenée une glace à trois faces. Et elle passait la journée, assise sur son pauvre tabouret, en train de se regarder dans la glace et de se rater dans la terre. La pauvre. Et elle descendait, elle descendait, elle descendait chaque jour davantage. La pauvre. Pensez-vous, c'est pas comme ça. Quand on se fait passer de la platitude au relief de la terre, c'est pas comme ça. Et là, elle était dans ce petit village qui s'appelait Saint-Léon-sur-Vézère, pour ceux qui connaissent le Périgord. Et il n'y avait rien, là, il n'y avait même pas une épicerie. Donc elle était obligée d'aller au village à côté qui s'appelle Montignac. Ça, c'est déjà plus connu. Et alors, elle allait tous les deux jours environ faire ses courses. Et elle allait chez Codec. Bon. Et elle rentre là-dedans. Mais vous rigolez. Mais rigolez donc. Sachez qu'il n'y a pas, il n'y a pas de lieu indigne pour la vie. La vie t'attend là où elle doit te prendre. Il n'y a pas de lieu profane pour la vie. Et sa vie l'attendait chez Codec.
Ça va les geeks? Ouais. C'est pour l'enregistrement ou quoi? Ça va les geeks?
Ouais.
On ambiance, un chat d'ambiance au centre social Saint-Pierre ce soir. En exclusivité mondiale, association Girolle, on se pompe fort. Pour vous ce soir, messieurs, dames, pompe fort au centre social de Saint-Pierre. Une exclusivité mondiale.
On nous surveille, mais nous, que guettons-nous? Bordeaux, Bordeaux.
Oh ma France, oh ma France, il y a quelque chose qui cloche dans l'air que l'on respire. Oh ma France, oh ma France, il y a quelque chose. Une odeur et un bruit de toute autre époque. Celle des matins brandes que le travers. Celle des matins brandes que le travers. Oh ma France, qui sent le rance. On voudrait bien qu'on cède au désespoir, qu'on marche droit ou qu'on crève. Oh, il y a quelque chose qui cloche dans ce vieux pays, oui, quelque chose. Mais ce n'est pas qu'ici, non. Dans ce vieux pays, oui, mais ce n'est pas qu'ici. C'est Michel. Si tu relèves un peu la tête et si tu tends l'oreille, c'est Michel. Si tu relèves un peu la tête et si tu tends l'oreille, tu entendras. Tu entendras. Tu entendras. Il y a quelque chose qui cloche.
Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire. Parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Oloron, podcastable et réécoutable sur radiooloron.fr ou sur le site de l'émission il était une fois le conte.wordpress.com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Écoutez, Il était une fois le conte.
Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées.
Voilà, on arrive sur la fin de cette 51e édition. Il était une fois le conte sur les ondes de Radio Oloron. Peut-être que vous avez écouté sur Internet tout ça. C'était la 14e, la 13e consacrée au conte en vrac. Voilà, donc au projet, du coup, je rappelle de... Un samedi en live dans les studios de Radio Oloron avec du compteur en live, tout ça, un samedi après-midi. Donc n'hésitez pas à contacter, hein, donc laissez un message à la radio, sur le Facebook éventuellement, sur le site, sur un des sites, voilà, enfin, dépatouillez-vous. Laissez un message à Radio Oloron, quoi qu'il en soit, voilà. Et du coup, je vous propose... Je vous propose une longue histoire du coup. Monsieur qui a travaillé du coup là sur ce souci, il a travaillé sur les histoires, les récits de vie, il a fait du collectage véritable. Et ces deux monsieur en fait, voilà. Et c'est une longue histoire de à peu près un quart d'heure. qu'on se fasse par de la musique. Donc c'est l'histoire de, qui s'appelle en tout cas Anatra, je ne sais pas si je prononce bien, ça nous est raconté par Jihad Darwish, excellent, et Henri Torga. Alors Jihad Darwish a fait aussi tout un spectacle dont j'ai souvent hésité du coup à vous en passer un des 5 ou 6 morceaux de l'album. Parce que tout simplement, c'est vraiment des poupées Touareg et j'ai du mal à les dissocier en fait. Il semble que je devrais tout vous passer pour bien faire. Mais peut-être que ouais, ça peut être bien d'entretenir, de vous frustrer un peu de temps en temps. Voilà. Parce que c'est tellement bien raconté. Enfin, voilà, donc, là c'est Anatra par donc Jihad Darwish, accompagné de Henri Torg, extrait du livre audio, Récit de vie en temps de guerre. C'est toujours sur. Paru aux éditions, les excellentes éditions Planète Rebelle, donc pareil, le Québec, hein, pas la Belgique, parce que c'est le meilleur. On se fait suivre ça du coup pour se terminer avec Le Vent se lève par Unité Mama, c'est des Bretons. L'album, c'est leur premier album, c'est Salut à toi, depuis il y a eu un autre album. Hein. Et ouais, voilà, quoi qu'il en soit, vous êtes des conteurs, racontez des histoires, tout ça. Contactez-moi, contactez Radio Oloron, voilà. Et puis sinon, racontez des histoires, allez voir les conteurs, que vive le spectacle vivant. Et puis voilà, bon allez
La deuxième invasion du Liban en 1982 était rapide. Les tanks israéliens sont arrivés à l'entrée de Beyrouth très vite. Ils sont arrivés à l'entrée de Beyrouth même avant que le sud ne soit complètement occupé. Et très vite, Beyrouth était coupée du reste du Liban. Entre Beyrouth et le sud, personne n'arrivait à circuler, même la Croix-Rouge n'arrivait plus à circuler. Les routes étaient bombardées et tous les carrefours étaient occupés par l'armée israélienne et tanks israéliens. Moi, à l'époque, je travaillais à la radio. J'habitais Beyrouth, mais ma famille habitait dans le sud. Ma mère était dans le village, mes frères, mes sœurs habitaient dans la ville de Saïda, à 40 km de Beyrouth. Je n'avais aucune nouvelle. Plus de nouvelles, mais aussi les journalistes ne pouvaient plus arriver à la radio, alors on était 3 à assurer l'urgence. On était là parfois 24 heures sur 24, on dormait sur place. De temps en temps, lorsque l'un de nous apprenait qu'il y avait de l'eau dans son quartier, lui, il rentrait à la maison prendre une douche et dormir chez lui. J'avais plus de nouvelles, les seules nouvelles qui arrivaient, c'était les réfugiés qui arrivaient à pied. Ils passaient à la radio, nous suppliaient d'annoncer qu'ils sont arrivés vivants à Beyrouth. Et c'est comme ça que j'ai eu des gens de mon village qui sont arrivés, qui m'ont annoncé qu'il y avait quelques maisons détruites, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des blessés lorsque l'armée israélienne a traversé le village. Ils n'avaient pas de nom, mais ils savaient que c'était un peu grave. C'était la seule nouvelle que j'avais du village. Et puisque j'avais pas de nouvelles détaillées, j'ai plongé dans le travail pour ne pas réfléchir. Un soir, je savais qu'il y avait de l'eau dans mon quartier. Ce soir-là, à la fin du travail, à 1h du matin, je suis rentré à la maison. Je suis rentré, j'ai pris une douche, j'ai arrosé les plantes et les fleurs qui étaient sur le balcon. Et j'ai fini par dormir. Le matin, très tôt, j'ai entendu la porte de l'appartement s'ouvrir. J'ai sursauté dans le lit, je savais qu'il n'y avait que 2 personnes qui avaient la clé. Moi-même et ma mère. Mais ma mère était dans le village au sud. J'ai sauté du lit et avant de la voir, j'ai senti l'odeur de sa robe. L'odeur de sa robe, je la reconnais entre 1000. Une odeur de thym frais, de menthe fraîche et de terre fraîche. Elle était là dans le couloir. Et comme chaque fois qu'elle venait voir un de ses enfants, elle portait à manger. Avant de l'embrasser, avant, elle m'a dit « Tes frères, tes sœurs vont bien, personne n'est mort, personne n'est blessé. Maintenant, tu peux faire le café. » Difficile de parler au Liban, même pendant la guerre, avant de boire un café. Je fais le café, on s'est installé, on a commencé à boire le café. Je lui dis « Et le village ? Qui c'est qui est mort ? Qui c'est qui est blessé ? Quelle maison est détruite ?» Il me dit « Le village, rien eu. Les temps qui sont passés, ils ont traversé, il n'y a pas eu de résistance. Les histoires des morts, des blessés, c'est l'histoire du corbeau. » Chez nous, l'histoire du corbeau dit qu'il y avait un homme qui était malade. Un homme qui était très malade. Sa femme l'a veillé toute la nuit. Et le matin, la femme avait les yeux rouges parce qu'elle n'avait pas dormi. La voisine lui a dit « Mais pourquoi t'as les yeux rouges ?» Elle a dit « Mon mari n'a pas dormi de la nuit, il était malade, il a vomi, c'était noir. » La voisine a raconté à sa deuxième voisine que le mari de sa voisine a vomi toute la nuit et c'était noir, noir comme un corbeau. Alors la voisine a raconté à son tour que le voisin a vomi la nuit, il a vomi un corbeau. Et puis la voisine a raconté que le voisin avait vomi deux corbeaux. Et lorsque la nouvelle a fait le tour du village, lorsque la nouvelle est revenue chez l'homme malade, il avait vomi sept corbeaux. C'est pour dire que c'était exagéré. Ma mère m'a dit, tu sais, dans le village, il n'y a pas eu grand-chose. Les tanks ont traversé et puis ils ont planté un barrage à la sortie du village. Ils laissaient les gens sortir, c'était plus difficile pour rentrer dans le village, mais les gens sortaient quand ils voulaient sortir. Ma mère m'a dit, lorsque j'ai appris que la ville de Saïd a été encerclée, moi, je n'ai pas trouvé la paix. J'ai quitté le village et suis descendu, je suis arrivé à l'entrée du Saïd. À l'entrée de la ville, il y avait encore des accrochages, il y avait au croisement, il y avait des tanks israéliens. Elle m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient cagoulés, qui faisaient des gestes, des signes, et lorsqu'ils désignaient quelqu'un, on le faisait monter dans un camion, on lui mettait un numéro sur le bras, et les autres, on leur disait « Bah, bah, mère, mère ». Moi, je suis arrivé au croisement juste à côté de la maison de ta sœur, et je voulais traverser, on m'a dit « Bah ». J'ai dit « Mais ma fille habite là », on m'a poussé, je suis retrouvé avec les autres au bord de la mer. Et là, au bord de la mer, il y avait des centaines, il y avait des milliers de personnes, on aurait dit toute la ville était rassemblée là. Certains n'avaient pas mangé, n'avaient pas bu depuis la veille, depuis l'avant-veille. Je cherchais sur la plage, je n'ai pas trouvé ni ta sœur, ni son mari, ni ses enfants. J'ai réfléchi, je me suis dit, si ta sœur est intelligente, elle ne resterait pas ici. Au bout de la plage, il y a un champ d'orangers, dans le champ d'orangers, ça elle le sait ta sœur, il y a la maison de l'oncle. Si elle est intelligente, elle serait là-bas. Et ma mère m'a dit, j'ai pris le chemin, je suis faufilé sur la plage, je suis arrivé jusqu'au champ d'oranger. Et j'avais raison. Ta sœur était intelligente et elle était chez l'oncle avec son mari et ses enfants. Mais voilà, lorsque la guerre avait commencé, chez l'oncle, il y avait aussi une famille, il y avait des amis qui étaient là en visite et sont restés aussi coincés. Finalement, chez l'oncle, il y avait une quinzaine de personnes. Il n'y avait plus rien à manger et voilà, moi, j'apporte ma bouche en plus. Ah, je n'étais pas bien. J'étais gêné. Là, je suis resté le soir et puis les gens ont essayé de dormir chacun comme ils pouvaient. Moi, je suis resté sur le canapé assise et j'ai pris Selim, le dernier du petit-fils. Je l'ai pris et je l'ai mis sur mes genoux. Mais moi, la nuit, je n'ai pas dormi. Je savais que dans la maison de ta sœur, là, pas très loin, il y avait des provisions. Je me suis dit, ici, il meurt de faim et là-bas, il y a à côté à manger et moi, je ne peux pas y aller. Le matin, très tôt, j'ai réveillé Selim, je lui dis, écoute, si on te demande où est ta grand-mère, tu dis, elle est remontée au village. Elle m'a dit, remontée au village, ça, j'y pensais même pas. J'ai quitté la maison des langues et je suis reparti. Je suis arrivé au croisement, le même barrage m'a dit, bahar, bahar, à la mer. Je lui dis, mais fais des phrases, parle dans ta langue, mais parle-nous, nous ne sommes pas des bêtes. Je commençais à m'énerver. Et quand je commençais à m'énerver, il y a un autre soldat qui est arrivé, sûrement c'était un officier, parce que le premier s'est tué. Et cet officier parlait un peu arabe. Il m'a dit qu'il faut aller à la mer parce qu'il y a encore des accrochages, parce que, et c'est vrai, il y avait deux cadavres dans la rue, il y avait encore des tirs qui venaient du toit de l'immeuble. Je lui dis, mais je peux pas aller à la mer, il y a les enfants qui ont faim, et là, dans la maison de ma fille, juste à côté, juste en face, il y a à manger, il faut que j'aille chercher à manger. Il m'a regardé, il m'a dit, tu veux voler, hein? Oh. Lorsqu'il m'a traité de voleuse, je sais pas ce qui m'a pris. J'étais furieuse. Je l'ai attrapé par le bras. Je lui dis, quoi? J'ai l'âge de ta mère, tu me traites de voleuse? C'est la maison de ma fille, elle a deux frigos, dans chaque frigo il y a ça. Je commençais à décrire tout ce qu'il y a dans le frigo, tout ce qu'il y a dans la cuisine, tout ce qu'il y a dans la maison. Et je me suis rendu compte que moi, je m'énervais, j'ai parlé, et lui, il me regardait, il se taisait. Je me suis rendu compte que son bras devenait de plus en plus mou dans ma main. Je me suis dit, il faut pas que je m'arrête de parler. Si je m'arrête de parler, il va me renvoyer à la mer. Alors je continuais de parler, d'écrire la maison, et pendant que je parlais, je l'ai poussé, j'avançais avec lui pour traverser le carrefour, pour aller vers l'immeuble. Et lui, il m'écoutait, il avançait. Je me suis dit, peut-être je vais rappeler sa mère, j'en sais rien, en tout cas, il faut pas que j'arrête de parler. La clé à la main, je lui décrivais la maison, je lui décrivais ce qu'il y a dans la maison, ce qu'il y a dans la cuisine, ce qu'il y a sur le balcon. Et on est arrivé au deuxième étage. Et lui, il était toujours avec moi. Et moi, j'ai parlé sans m'arrêter. J'avais la clé à la main. Je voulais ouvrir la porte, ça servait à rien. Avec le bombardement, il n'y avait plus de porte, il n'y avait plus de fenêtre. Tout était cassé. Je lui dis, tu vois les deux frigos? Tu me traites de voleuse? Et puis, il y avait une chaise là dans la cuisine. Il y avait des morceaux de verre sur la chaise. J'ai nettoyé la chaise. Je lui dis, bon, assieds-toi. Je vais prendre les provisions qui sont là. Et puis, tout d'un coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais si je prends tout ça chez l'oncle, si je prends la viande congelée, le poisson congelé, si je prends le riz, et si chez l'oncle, il n'y a pas de gaz? Pendant la guerre, le gaz, c'est toujours un problème. Elle m'a dit, chez ta sœur, je savais qu'il y avait du gaz. Ce serait bête d'apporter tout ça et d'arriver là-bas et de ne pas pouvoir le cuire. Alors qu'ici, il y a du gaz. Et j'ai décidé de faire la cuisine ici avant de partir. J'ai dit au soldat, à l'officier, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'ouvrir la bonbonne de gaz qui est sur le balcon? Il dit, moi, je pouvais l'ouvrir, mais je voulais lui montrer que je connais bien la maison. Il est parti, il m'a ouvert la bonbonne de gaz et j'ai commencé à faire la cuisine. Lui, il ne pouvait pas rester, il y avait encore des accrochages, il y avait encore des tirs qui venaient du toit. Il est parti, il est revenu, il est parti, il est revenu, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi, je cuisinais toujours, je préparais, je mettais de côté. Au bout de 4 heures, j'avais fini. J'ai entendu des pas derrière, je me suis dit, c'est lui, je me suis retourné pour lui dire, ça y est, j'ai fini. Je me suis retourné, ce n'était pas lui. Il y avait deux soldats qui me braquaient avec leurs fusils, qui avançaient doucement. Ils pensaient sûrement que j'étais voleuse, ou pire, que j'étais terroriste, résistante. Je leur dis, voilà, c'est ma maison, j'ai fini, je vais partir. Mais ils ne comprenaient pas un mot d'arabe, ils me braquaient avec leurs armes, ils me disaient des mots que je ne comprenais pas. Ah, je lui dis, cette fois-ci, ça y est, tu es morte. C'est fini. Mais je suis sûr, je lui ai rappelé quelqu'un. Je suis sûr, je lui ai rappelé sa mère parce qu'il est revenu en courant. J'ai entendu ses pas dans l'escalier, il est arrivé en courant, j'ai prié que ce soit lui, c'était lui. Il a parlé à ses soldats, ils ont baissé leurs armes. À moi, il m'a dit en arabe, maintenant tu peux plus rester, il faut que tu partes, sinon tu vas mourir. Je lui ai dit, j'ai fini. D'ailleurs, j'allais partir. Et puis, je lui ai dit, ne renvoie pas tes soldats parce que tu sais, j'ai eu une opération, une hernie, il y a pas longtemps, et le médecin m'a dit que je ne peux pas porter des choses lourdes. Est-ce qu'avec tes soldats, tu peux m'aider à porter ça jusqu'au barrage? Après, j'appelle mes petits-enfants, ils viendront les chercher, il faut pas s'inquiéter. Il a secoué la tête et il s'est approché, il a appelé ses soldats, ils ont porté les sacs avec moi jusqu'au barrage. Il m'a dit, voilà, une fois que là, il y avait à manger, j'étais tranquille. Mais il y avait tes sœurs, tes frères qui habitaient de l'autre côté de la ville. Là, je savais pas comment ils allaient, s'ils étaient vivants ou morts. Alors la nuit, j'ai traversé par le champ d'oranger, je suis arrivé chez ta deuxième sœur. Et là, elle, qui avait l'habitude de se débrouiller complètement avant la guerre, là, était complètement paniquée. Ses enfants étaient tout petits autour d'elle et savaient pas comment faire. Alors je lui remontrais comment on fait du pain, j'ai cuisiné pour les enfants, je leur donnais à manger, je leur racontais des histoires le soir, ils sont calmés, ils sont endormis. Et puis comme ça, des maisons en maison, j'ai fait le tour de tes frères et sœurs. Et pendant ce temps-là, la ville tombait quartier par quartier et la ville a fini par être complètement occupée. Alors les morts sont morts, les blessés sont blessés, les prisonniers sont prisonniers, la ville est occupée, il y a eu le couvre-feu le soir. Et voilà, tes frères, tes sœurs, personne n'est mort, personne n'est blessé, personne n'a été pris comme prisonnier. Toi, elle m'a dit, toi, on savait que t'allais bien parce qu'on entendait ta voix à la radio, on t'entendait toute la journée. Mais on s'est dit, lui, il doit être inquiet. Alors quand j'ai su que tout le monde était en sûreté, que tout le monde avait à manger, Je leur ai dit, écoutez, je vais partir à Beyrouth, lui dire que tout le monde va bien pour qu'il ne s'inquiète pas. Et c'est comme ça que je suis arrivé. Je lui ai dit, oui, mais comment t'as réussi à venir? La route est coupée, même la Croix-Rouge n'arrive pas à circuler, puis Beyrouth, et on circulait. Elle m'a dit, ben c'est lui que je trouve. Tu sais, il n'y a que les carrefours qui sont occupés. Entre les carrefours, on peut encore circuler. Alors, entre les carrefours, il y a toujours une voiture qui me faisait passer d'un point à l'autre. Et quand j'arrivais au carrefour, là où il y a le tank israélien, eh ben, j'ai contourné à pied par la montagne. Et quand la nuit arrivait, il y avait toujours quelqu'un qui m'invitait pour dormir chez lui. Et c'est comme ça, je dormis 2 jours sur la route et j'ai mis 48 heures, je suis arrivé. Et à un moment d'accalmie, je suis entré dans Beyrouth et comme font les réfugiés. Et voilà, je suis arrivé. D'ailleurs, il faudra qu'il annonce à la radio que je suis sain et sauf, sinon tes frères, tes sœurs là-bas vont s'inquiéter. J'ai réussi à la garder comme ça 3 jours. Au bout de 3 jours, il est reparti dans le sud, par le même chemin. Et là, j'ai remis 48 heures. Lorsque la guerre était finie, la vie m'a envoyé loin, puis les années sont passées. Et un jour, je suis remonté au village, il y avait des plantes partout autour de la maison. Ma mère avait une théorie, chaque fois qu'elle avait un souci, elle plantait une fleur. Il y avait des plantes partout, il y avait des fleurs partout. J'ai lui dit, tu sais, les années passent et tu vieillis et un jour, personne ne saura comment s'appellent ces plantes et ces fleurs. Alors on a commencé à prendre des photos, à noter les noms. Et c'est comme ça qu'on est arrivé devant une plante qui porte une fleur jaune. J'ai pris la photo, je lui ai dit, mais c'est là comment il s'appelle? Il m'a dit, je ne sais pas son nom, c'est la plante que j'ai amenée quand je suis rentré de chez toi. Chez moi quand? Il m'a dit, chez toi à Beyrouth, quand vous étiez encerclé là, en 82. Il m'a dit, je t'avais raconté que pour traverser, chaque fois qu'il y avait un carrefour, qu'il y avait des barrages, je contournais par la montagne. Et voilà, le lendemain, j'étais fatigué, je me suis assis sur une colline, j'ai enlevé mes chaussures pour me reposer. Et j'ai vu en face de moi cette plante avec sa fleur jaune. Je lui ai dit, mais celle-là, je ne la connais pas. Je vais la prendre. Et j'ai commencé par tendre la main pour la prendre, pour l'arracher, puis je me suis arrêté. Je lui ai dit, au milieu de cette folie, moi-même, je ne suis pas sûr d'arriver à Beyrouth vivante. Elle, la pauvre, elle ne m'a rien fait, pourquoi la prendre? Je lui ai dit, je te laisse ici, je te laisse vivre. Et je suis parti. Je suis arrivé à Beyrouth, je suis resté 3 jours chez toi, tu te rappelles, et quand j'ai quitté Beyrouth, eh bien, j'ai repris le même chemin. Et je me suis reposé sur la même colline. Et là, en face de moi, j'ai trouvé cette plante qui m'attendait. Elle était encore là. J'ai dit, ah, tu m'as attendu cette fois-ci, je rentre chez moi, je te prends. Alors, je l'ai arraché doucement. J'ai mis les racines dans le mouchoir, j'ai mis un peu d'eau sur le mouchoir pour le garder au frais, et j'ai repris la route. Je lui ai dit son nom, je ne connais pas son nom, mais si tu veux, puisqu'il m'a attendu, je peux l'appeler Natra, celle qui a attendu. Et c'est comme ça qu'on l'a appelée, Natra.
On prêche l'amour, la résistance, la solidarité. Mais jusqu'où, dites-moi quand vos limites sont dépassées. Ce système veut ta peau, t'en as pas marre de rêvasser. C'était non hier, pourquoi oui aujourd'hui? C'était non aux colonies, pourquoi oui au FMI? C'était non à l'esclavage, pourquoi oui au marché? Le pouvoir est en bas, mais les étages refusent d'écouter. Non à la Bastille, pourquoi oui aux rétentions? Marianne s'impatiente qu'on réponde à la question. En sentant la mère du peuple a dit merde à l'oppression. Pour que naissent les droits de l'homme, faisons la révolution.
Faut qu'on frappe avant d'entrer pendant que défonce nos portes. Faut leur donner tout monsieur, me décrase comme un cloporte. Nos paroles, y'en a marre, ça fait trop longtemps que ça dure. Qu'on leur parle gentiment et qu'on nous crache à la figure. On parle pas le même langage, on a plus les mêmes cœurs. Nous l'espoir nous protège, c'est pas vos flics, matraqueurs. Démocratie, mon cul étouffé par la peur. Ils veulent pas de notre langue. Prendra la leur.
La non-violence c'est bien, mais y'en a marre d'être tabassé. Noir et rien, ça suffit pas, ils plieront pas, c'est pas assez. Quand toutes les solutions pacifiques ont échoué, Gandhi nous dit de faire la violence à la lâcheté.
Le vent se lève.
Machine s'emballe, et tu n'es plus qu'un fou sanguinaire en cavale.
On piétine des vies, c'est comme ça, c'est normal. Ça fait mal un instant, puis on referme le journal. On nous brade du fatal, l'esclave devient banal. C'est pas bien, mais c'est légal, ça fait mal, mais c'est pas mal.
Le système parfait, je suis d'accord, n'existe pas. Nouveau top, remballe ça, c'est pas pour moi. Mais nourrir les gosses, ça paraît important. Même si pour ça va, ouais, faudrait casser quelques dents.
Du trader de Wall Street, au pêcheur de pit. Du Texas au Rasta de Kingston. Des multinationales aux contraintes de faire le monde. Ce système gangrène cancérise l'âme de l'homme. On est tous sur mes pattes où j'y crois. On se fout de leur drapeau où j'y crois. Qu'aujourd'hui dans la joie le glace sonne. D'après moi ce système n'a rien de bon pour personne.
Le vent se lève.
Avec ma nouvelle émission, Il était une fois le conte, moi, Ashkatou, je vous amène à la découverte des contes, des conteurs et de l'oralité tous les mardis à partir de 21h. Il était une fois le conte, une émission pour rêver, découvrir, s'instruire. Parce que les contes disent toujours la vérité. Enfin, presque. Il était une fois le conte. Une émission réécoutable sur Radio Oloron, podcastable et réécoutable sur radiooloron.fr ou sur le site de l'émission Il était une fois le conte.wordpress.com. Une émission diffusée tous les mardis à partir de 21h sur les ondes de Radio Oloron. Écoutez, Il était une fois le conte.
Moi je raconte des histoires. Des histoires que vous m'avez contées.